Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arkana Mild Hybrid, maintenant disponible en occasion dès 199 euros par mois. Arkana Business Mild Hybrid 140 DC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 4 000 euros. Offre à particulier jusqu'au 30 juin, si accordiac, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai un problème, c'est que je ne sais pas repasser.
Ah oui?
Ouais, j'ai toujours du mal.
Et
oui. Non, non, si tu pars dans le misogynisme.
Ah non, mais alors tout de suite, il n'y a pas un pressing à côté de
on
chez toi.
Misogynisme.
Il a pris un petit peu cette base-là pour en fructifier les fruits. Ouais. On va faire fi de tous les égaux. Et ben on va le faire parce que le plus important, c'est notre qui reste en Liga.
20h-22h, Génération After.
François Pinet.
Ah, ils sont bons, ils sont là. Génération After, Elton Mokolo, Sofiane Zouaoui, Walid Acherchour. Ça va depuis que vous êtes rencontrés là, depuis une heure. Ça s'est bien passé.
On apprend à faire connaissance autour de
vous.
Ouais, c'est bien. Au départ, vous êtes un peu
tendu entre
vous.
On se met sur la gueule.
Mais j'ai l'impression que ça matche bien. Vous devriez faire une émission ensemble, vous savez.
Faudrait quelqu'un y pense.
Bon, en tout cas, en ce moment, on est très content de vous avoir pour Génération After. C'est à retrouver en podcast, bien sûr. On a notamment parlé de l'avenir de Cherki à Lyon. Dans un instant, on va s'intéresser au cas Donnarumma au PSG avec l'arrivée d'un nouveau gardien. L'italien pourrait être mis en concurrence. Est-ce que vous comprenez tout ça? On vous attend, supporter du PSG, au 32-16. Dans 30 minutes, on va faire aussi le point sur une situation explosive au Cameroun. Alors qu'il y a un match de qualif demain, la tension toujours forte entre Samuel Eto'o et le président de la Fédération, qui est le président de la Fédération et le ministère des Sports. On vous explique tout avec Hervé Kouamo, qui est un journaliste camerounais qui sera en direct avec nous dans un instant. Roland Garros, on suit la deuxième demi-finale. Carlos Alcaraz est qualifié pour la finale. Il attend son adversaire et ça va peut-être prendre un petit peu de temps, Eric Salio, à se décanter entre Rude et Zverev.
Oui, puisqu'il y a un set partout. Après 1h32, Casper Ruud avait bien débuté 6-2, mais Sacha Zverev, l'Allemand, a répliqué avec le même score. Mais il y a peut-être un petit truc qui va jouer un rôle très important, c'est que visiblement, Casper Ruud, il a des maux d'estomac. Ah. Il a fait venir le docteur il y a quelques secondes, le docteur du tournoi, qui lui a donné une gélule et je sais pas, une poudre, je sais pas, il a pas encore
la poudre,
mis ça dans la bouche, mais il avait l'air de, ouais, tu vois, typiquement, ça ressemble un peu à ce qu'avait Zabalenka, tu vois, pas bien.
Gastro-entérite, tout simplement.
Il y a peut-être une épidémie de gastro dans le restaurant des joueurs.
Ah oui.
Faire qu'on enquête.
Ouais, bah fais attention, Eric. Fais attention à toi. On a besoin de toi jusqu'à dimanche.
C'est pour ça les sièges vides.
J'ai pas accès.
C'est peut-être pour ça qu'il y a des sièges vides, évidemment.
Peut-être un lien.
L'épidémie vraiment serait importante là.
Il faudrait se méfier. Surtout terrible pour Casper Ruud parce qu'il est bien débuté, mais là, s'il est plus, si physiquement, il est plus en état de tenir. C'est une chance énorme pour Sacha Zverev, effectivement, de rallier la finale.
Bon, on va suivre ça, évidemment, et les nouvelles des maux d'estomac de Casper Ruud, c'est avec toi, Eric Salio, tout au long de ce Génération After. On va parler, en attendant, de la gestion des gardiens au PSG, un vaste sujet qui dure depuis quand même un certain temps déjà. Et c'est ton avis, Elton.
Je pense avoir un peu de métier pour pouvoir gérer ces situations.
T'as du métier pour parler justement de Donnarumma.
Quoi ce truc?
Je sais pas d'où ça sort.
Non, je pense que c'était pendant Génération Africa.
D'accord.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ah d'accord.
Ouais. T'avais du métier pour quoi à l'époque?
T'as dû me relancer sur quelque chose qui était pas bon et j'ai dit je pense avoir un peu de métier.
Ah d'accord.
Ouais, donc ça doit être ça.
En toute humilité.
En toute humilité, ouais, toujours. Ouais.
Dans les boîtes de nuit.
Alors, petite info sur Gianluigi Donnarumma qui pourrait être mis en concurrence avec Matvei Safonov, international russe, qui a signé pour 20 millions en provenance de Krasnodar. On rappelle qu'Arno Tenas, choix de Luis Enrique, est toujours dans l'effectif. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, si Donnarumma devrait débuter la saison comme titulaire, au poste de numéro 1, il n'est pas impossible, en tout cas, qu'il soit mis en concurrence et donc qu'il y ait un changement potentiellement au cours de saison. Voilà où en est l'état des gardiens au Paris Saint-Germain. Elton, qu'est-ce que tu voulais dire autour de Donnarumma? Toi, pour toi, cette possible concurrence et ce possible déclassement, même s'il n'a pas encore eu lieu, ça serait légitime?
Pour moi, ce serait légitime parce que certes, Gianluigi Donnarumma a été nommé meilleur gardien de la Ligue 1. Il a un pourcentage d'arrêt cette saison en Ligue 1 et même en Ligue des Champions qui est quand même intéressant. On parle de plus de 80%. Et donc, on pourrait se dire que au niveau des satisfactions du côté du PSG, Gianluigi Donnarumma arrive certainement sur le podium. Mais quand on parle de Gianluigi Donnarumma, il y a toujours un oui, mais. Et ça, c'est quelque chose qui personnellement me dérange. Oui, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de Gianluigi Donnarumma, la saison 2023-2024 a deux réalités. On a un Gianluigi Donnarumma qui a été dominant en Ligue 1, mais on a également un Gianluigi Donnarumma qui a montré de la fragilité lors de la phase éliminatoire de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, notamment dans cette idée qu'il y a une marge de progression sur le poste de gardien de but, et ben moi je pense que c'est légitime de penser que Gianluigi Donnarumma, qui arrive sur un cycle déjà de 3 ans au PSG, doit être challengé. Parce qu'il est quand même tombé sur un entraîneur, Luis Enrique, qui s'est quand même attaché à cette question qui est très importante tout au long de sa carrière d'entraîneur. J'ai des exemples récents du côté du Barça où il y avait une alternance entre Ter Stegen et Claudio Bravo, ce qui avait permis au Barça de faire un triplé lors de la saison 2014-2015 avec un triplé à la clé. Plus près de nous, on a la saison 2020-2021 où alors que David De Gea était le gardien indiscutable de la sélection espagnole, Luis Enrique avait mis en avant Unai Simon qui n'était qu'un gardien de Bilbao, et l'Espagne était allée en demi-finale d'Euro. Donc pour revenir sur Gianluigi Donnarumma, je pense que Gianluigi Donnarumma a des qualités qui sont évidentes, mais il a aussi des défauts qui sont évidents. Les adversaires l'ont ciblé, notamment sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu contre le Barça, on l'a vu contre Borussia Dortmund. Le jeu au pied, il est régulièrement challengé. Et moi, je me dis que quand on parle de Gianluigi Donnarumma, qui, on nous avait vendu à l'été 2021, un gardien qui devait être rapidement dans le top 5 des meilleurs gardiens, est-ce qu'on est là-dessus aujourd'hui?
La à question l'époque, il sortait d'un euro.
Ouais, mais la question mérite d'être posée parce que on a un gardien qui est certes de qualité, notamment du côté de la Ligue 1, mais j'aimerais bien aussi avoir un gardien de niveau d'envergure européen. Et aujourd'hui, par rapport à Luis Enrique, qui a envie de progresser sur cette question du gardien, moi, je pense qu'il est nécessaire pour Gianluigi Donnarumma d'être challengé. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important, c'est la durée de son contrat. Il nous a pas échappé que Gianluigi Donnarumma, à la fin de son contrat, c'est 2026. 2026, c'est un élément qui est très important. Ce qui nous fait dire quoi? C'est que Gianluigi Donnarumma est à un tournant de sa carrière parisienne. Là, il est en 2024, il reste 2 ans de contrat. Donc, du côté du PSG, on se dit quoi? Est-ce qu'on a envie de s'inscrire dans la durée avec Donnarumma en connaissant ses qualités, mais aussi ses défauts? Ou alors, il faut pas anticiper, et parce que ça, c'est la réalité d'un grand club, il faut pas anticiper le fait qu'il pourrait y avoir un PSG sans Gianluigi Donnarumma. Raison pour laquelle, moi, je pars du principe que la saison prochaine sera la saison la plus importante de Gianluigi Donnarumma pour sa carrière parisienne. Soit il arrive à dissiper les doutes, et là-dessus, il me paraîtra légitime de le prolonger, ou soit alors, le challenge avec un nouveau gardien qui devra arriver très prochainement sera très important, et ça permettra au PSG, justement, de penser à l'après Donnarumma. Donc, raison pour laquelle je pense qu'il est légitime d'avoir ce déclassement de Gianluigi Donnarumma.
On se pose la question, en tout cas, même si pour l'instant, il n'est pas déclassé.
Il n'y a pas de déclassement pour l'instant.
Il n'y a pas de déclassement, ouais.
Il est challengé.
Ouais.
Oui, mais bon, c'est pas anodin.
Oui, c'est pas anodin. Après, moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est que le challenger à Donnarumma ait des qualités que Donnarumma n'a pas. Et vu les échos qu'on a eus, notamment qu'on a reçus de spécialistes de football russe et qui suivaient notamment Safonov, c'est pas le cas. C'est qu'il a les mêmes problèmes que Donnarumma, notamment dans le jeu au pied. Ça me dérange un peu plus. Et la deuxième des choses, c'est que oui, bien évidemment que Donnarumma a des faiblesses, qu'il a eu des lacunes, même si sa saison en Ligue 1 elle reste vraiment très très bonne, et il a mérité son titre de meilleur gardien. Je vais pas paraphraser ce qu'a dit Elton. Il y a des manques, notamment en Ligue des Champions, comme beaucoup de joueurs dans cette équipe. Maintenant, tu parlais du top 5. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gardiens qui ont des lacunes et qui ont montré des lacunes cette saison en Europe.
Mais qui sont pas handicapants.
C'est pas le seul. Bah, ça dépend où est-ce qu'on se place sur l'handicap. Hein. Ter Stegen, il est handicapant pour le Barça.
Tu connais Marie-France Walid à Cherchour.
Non, parce que les gens la connaissent pas, peut-être.
Oui, il a des.
Il est handicapant. Mike Maignan, il est handicapant par l'AC Milan en phase de poule de Ligue des Champions.
Oui, là-dessus, oui.
D'accord.
Mais après, du PSG, aujourd'hui, on se concentre sur Donnarumma.
Oui, d'accord, très bien. Mais je dis juste qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais. Ok, moi, je suis ouvert à la question sur le challenge de Donnarumma, mais il va falloir me prouver que les mecs qui arrivent au Paris Saint-Germain soit meilleur que Donnarumma. Parce que si c'est pour faire la même erreur qu'ils ont fait avec Navas, où Navas était très bon.
Fondamentalement, c'était une erreur.
Bah, a posteriori, oui, parce que tout le monde veut le départ de Donnarumma.
Non, mais
ça, c'est important, parce qu'en fait, la genèse de cette histoire-là, en fait, Donnarumma, dans cette équipe du Paris Saint-Germain, dans ce club du Paris Saint-Germain, j'ai jamais senti, et même dès le début, une volonté de l'intégrer pleinement. Il y a eu ce débat avec Navas dès le début qui l'a aussi perturbé, parce qu'on parle de Navas, mais Donnarumma aussi était perturbé à ce moment-là. Il y a eu ensuite, maintenant, il y a ce débat où on a ramené Tenas. Il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis sur le jeu au pied de Tenas. Moi, quand j'ai vu jouer Tenas dans les buts, je peux te dire que je suis bien content d'avoir Donnarumma dans ce club-là. Et puis maintenant, il y a Safonov qui arrive pour un montant significatif, parce que tu mets pas 20 millions sur un gardien, même quand t'es le Paris Saint-Germain, pour le mettre numéro 2.
Après, Tenas, on l'a très peu vu, hormis le Havre.
Ouais, enfin.
Surtout Navas. Oui. Surtout Navas qui avait accumulé les matchs et qui avait été pas bon.
Mais il a fait 5 matchs, quoi.
Mais moi, t'as cité un très
peu. Il a fait 5 matchs.
T'as cité un exemple avec Bravo et Ter Stegen, pardon, qui est un exemple qui a marché. Mais pour avoir discuté avec Christophe Lolichon, notamment lors d'une interview, ça ne marche pas.
Ouais.
Ça marche une fois. La gestion d'un gardien de but, pour moi, c'est pas ce qu'est en train de faire.
Trapparevola, ça n'avait pas marché, par exemple.
Alors, soit tu me dis, en fait, on prend Safonov et on va sortir Donnarumma de l'effectif et on va le vendre. Allez, je peux te rejoindre. On peut aller dans ce sens-là. Mais jouer un petit peu sur deux tableaux avec un poste aussi important que celui de gardien de but, pour moi, c'est pas une bonne gestion.
Et puis en plus, quand on parle de challenger, c'est vrai qu'il y a des gardiens qui peut-être ont besoin d'être challengés. Il y en a d'autres que ça.
Lui,
que
ça le rebute.
Mais on a l'impression que lui, c'est.
Et puis surtout, François, si en fait on se calque sur l'avis d'Elton et la fin de son avis quand il dit que ça va être un virage important pour Donnarumma.
Ah, ça, j'en suis
donc ça veut
convaincu.
Dire que si Donnarumma il est pas bon du tout cette année et qu'il réagit mal au challenge, donc Safonov est titulaire. On fait quoi si Safonov il est pas bon non plus?
Ah bah oui, mais ça,
non, mais c'est,
ça,
quoi, c'est la réalité. Non, mais c'est quoi, on a dépensé 20 millions d'euros là pour bon, non, mais c'est une gestion catastrophique.
Non, c'est pas une gestion catastrophique. Non, le PSG,
demain d'avoir ramené Safonov, tu perds Donnarumma et Safonov n'est pas bon, et tu dois aller chercher un très gros gardien, et un gardien aujourd'hui, pour aller sortir un gardien d'un très gros club, il faut mettre beaucoup d'argent. Et c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, les gros gardiens, les très très grands gardiens, il n'y en a pas légion. Parce que tout à l'heure, je te parlais d'Oblak, mais Ederson a fait beaucoup de débats, Raya a fait beaucoup de débats. On peut en citer énormément.
Walid, la finalité, c'est qu'on reste.
Onana à Manchester United fait beaucoup de débats.
La finalité, c'est qu'on reste dans l'immobilisme pour Donnarumma, en connaissant ses qualités, mais aussi ses défauts.
Regarde, moi, je pense qu'on prend le sujet sur un mauvais point. Déjà, on t'a donné notre avis sur la genèse de Donnarumma, qui pour moi n'a jamais été réellement installé. Il y a toujours eu des doutes, alors qu'il a nourri lui aussi avec ses performances, bien évidemment. Mais je trouve
après,
que ça n'a pas été.
Il a été installé quand même, Sofiane. Au début, c'était compliqué, je suis d'accord, mais à un moment donné, il a été installé.
On parle d'un gardien qui l'a depuis 4 ans. Donc sur les 4 ans, combien de temps vraiment, tu vois, pour un poste aussi important.
Non, ça, je suis pas d'accord.
Mais pour un poste aussi important, j'ai trouvé pas assez.
Et après, c'est un gardien de haut niveau, il peut s'adapter aussi.
Oui, mais le haut niveau.
Après, tu peux penser, Sofiane, qu'en étant meilleur joueur de l'euro, il arrive avec une certaine assurance.
Oui, mais quand t'as Navas sur le banc.
Le haut niveau, ça fonctionne de partout. Mais pour moi, sur un poste de gardien de but, faut quand même prendre avec des pincettes. Tu peux pas gérer ce poste comme les autres. Et donc, moi, j'ai un problème par rapport à la gestion de Donnarumma sur ce côté-là. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'on regarde au mauvais endroit. Il a évidemment des lacunes, mais des lacunes qui se travaillent parce qu'il a des qualités de base exceptionnelle, mais il a des lacunes qui se travaillent.
Ça progresse pas vite, là, pour le coup.
Ouais, mais là,
pour
le coup, Sofiane, ça progresse 3 ans, là.
Ça progresse pas beaucoup.
Ouais, je pense que ça peut progresser. Mais en revanche, moi, où ça me dérange le plus, c'est quand même un gardien qui est surexposé avec une charnière centrale qui est mauvaise. Et ça, faut le préciser. Il y a très peu de gardiens en Europe qui ont une charnière centrale aussi moyenne, avec autant de lacunes et autant de shots que tu te prends, de tirs que tu te prends sur une rencontre. Donc, avant de parler de Donnarumma, qui peut être un sujet, bien évidemment, peut-être, si tu renforces la structure défensive de cette équipe-là, tu verras un peu plus les qualités de ce gardien.
Alors, ce que je voudrais, c'est que vous veniez au 32-16.
Dans moins de temps.
Voilà, dans un instant, on aura Tariq, notamment, supporter du PSG 32-16, pour nous rejoindre, pour parler de Donnarumma. C'est un sujet qui divise, c'est un sujet qui passionne, évidemment.
En fait, ce que je me dis, c'est qu'il y a beaucoup de chantiers au Paris Saint-Germain, quand même, cet été. C'est un été très, très important. Et je ne sais pas si le dossier prioritaire, c'est Donnarumma, quoi. C'est mon avis. Après, ça ne veut pas dire que ce que dit Elton
si vous partagez ce que dit Walid,
est mauvais.
N'hésitez pas.
Il a raison.
D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre dans un instant.
Il y a une échelle des priorités.
On revient sur RMC dans Génération After. Vous ne raterez rien. Restez avec nous. À tout de suite.
RMC, 20h-22h. Génération After.
François Pinet.
Vous écoutez RMC Génération After jusqu'à 22h, Walid Acherchou, Elton Mokolo, Sofiane Zouaoui qui sont avec nous. On est en direct également sur YouTube, donc on salue le chat. N'hésitez pas à laisser vos messages.
Et oui, sur YouTube.
Ouais, je dis bonjour.
Ah ouais, tu dis bonjour. C'est comme ça que tu dis bonjour, voilà. D'accord.
Les interpelles.
On va également à Roland Garros parce qu'on suit la deuxième demi-finale. Eric, salut, entre Rude et Zverev.
Et Sacha Zverev fait la course en tête dans cette troisième manche. Il a un break d'avance, l'Allemand. Il mène 4-3. Il est au service. Et c'est vrai qu'on voit vraiment que Casper Ruud est en souffrance.
Aïe.
Il est pas bien. J'espère qu'il va pas vomir sur le court parce que quand même ça se fait pas. Mais là, il est clairement diminué. Donc je rappelle qu'il y a un set partout, mais là il y a vraiment un ballotage très favorable pour Sacha Zverev, donc qui est, selon moi, là bien placé pour rejoindre notre ami Carlos Alcaraz qui doit regarder le match en train de dîner là dans son hôtel et il doit se dire, que c'est peut-être pas une bonne affaire pour lui. Pourquoi? Si tu as deux minutes,
vas-y.
Je te donne le face-à-face entre Zverev et Alcaraz.
Ah, c'est ça bêtement.
Ouais, qu'il a battu à Roland Garros.
5-4 pour Zverev.
Ah oui.
Alors que Alcaraz mène 4-0 contre Casper Ruud. Donc je pense que Alcaraz, il dit bon, ça va pas l'empêcher de dîner. Hein.
Oui, oui. Quand même. Mais bon,
après,
oui,
sur terre battue, il y a eu 2-3 gifles de la part d'Alcaraz. Non, à Madrid, je crois. Je me rappelle d'une finale à Madrid où Alcaraz lui fait très mal.
Et 3 semaines plus tard, Zverev le bat à Roland Garros.
6-3-6-1. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que la veille, Zverev, il avait fini à pas d'heure.
Ah, d'accord.
Ouais. Parce que Alcaraz était protégé, il jouait tous les matchs à 16h. Et Sinner et Zverev avaient joué la Night Session, il était cramé le lendemain.
Bah, si on peut pas faire 2-3 magouilles à domicile.
Bah, bien sûr, c'est normal, écoute, il n'y a pas de mal à ça. Hein.
Bon, Eric, on te retrouve évidemment pour la suite de cette demi-finale. La finale, ça sera dimanche, bien sûr, à suivre sur RMC. Mais d'ici là, on va suivre ce match entre Ruud et Zverev. Dans un instant, on va vous raconter également ce qui se passe au Cameroun entre Samuel Eto'o, le président de la Fédé Cameroun, et le ministère des Sports, une guerre ouverte qui aura peut-être des conséquences sur la sélection. En tout cas, le Cameroun joue demain contre le Cap-Vert en qualification du Mondial. Et puis en ce moment, il y a des matchs qui se jouent. L'Angleterre est menée toujours sur sa pelouse 1-0 par l'Islande.
La grande Angleterre.
Ça, c'est un petit tac pour Walid.
Le voilà, favori de l'Euro, derrière l'Allemagne.
J'ai rien envers l'Angleterre, moi.
Ah ouais, d'accord. La Grèce mène face à l'Allemagne 1-0, les amis, but de Mazouras. Et puis,
c'est rassurant pour l'Allemagne,
la
aussi.
Pologne. L'Allemagne encore, la Grande Allemagne. Il y a combien
1-0 pour la Grèce.
C'est dingue, ça. Le gros problème avec Soufiane Zouaoui, c'est que s'il y avait eu une défaite pour l'équipe de France, il t'aurait dû mettre.
Ouais, mais on a gagné.
C'est ça le problème. C'est des matchs amicaux, c'est pas très grave. Par contre, quand tu peux en mettre aux autres.
À quelques jours de l'Euro, j'aurais pas dit ça.
C'est quand même un mec qui, je répète, sur le Allemagne-France, il a pas voulu regarder le match en disant ça m'intéresse pas.
Ouais, ça m'intéresse pas.
Ça m'intéresse pas. On verra l'Euro. Mais là, ça m'intéresse. Par contre, Angleterre, Islande, ça m'intéresse.
Et Pologne, ça va vous intéresser parce que c'est un des adversaires de l'équipe de France du premier tour. 3-0 pour l'instant, 36e de jeu face à l'Ukraine. 3-0 en faveur des Polonais.
C'est quand même significatif parce que l'Ukraine est aussi l'Ukraine, l'Euro. Et j'ai vu l'Ukraine contre l'Allemagne. Ouais. Ils avaient bien tenu. Ils avaient fait d'ailleurs 0-0.
Donc il y a 3-0
de l'Euro, 37 minutes de jeu sans Lewandowski qui n'est pas titulaire. Et Zimanski qui joue en attaque.
Et oui. Voilà. Donc il y a trois équipes qui ne font pas l'Euro qui battent trois équipes qui font l'Euro.
Non, l'Ukraine est à l'Euro.
Oui, d'accord. Mais donc, ah oui, l'Ukraine est à l'Euro.
La Pologne fait l'Euro puisqu'elle affrontera.
Il y en a deux,
La Pologne sans Lewandowski. Et si c'était une piste dans la perspective du match à Dortmund,
qui était une pépite Football Manager pour ceux qui jouent au jeu.
C'est vrai.
Très très fort.
C'est vrai.
Enfin, c'était ma petite contribution.
Je le prenais justement avec le Borussia Dortmund.
Ah oui.
Ouais.
Très fort.
On va accueillir Tariq qui a fait le 32-16 pour revenir sur notre débat sur Gianluigi Donnarumma. Salut Tariq.
Bonsoir tout le monde.
Salut Tariq.
Alors, écoutez ce qu'on a dit sur Donnarumma. Il y a plusieurs éléments qui ont été dits, notamment par Alton, qui trouve que c'est normal qu'il puisse être mis comme ça en concurrence après sa saison. Est-ce que tu partages ?
Non, je partage pas parce que je trouve qu'on n'apprend pas de nos erreurs, parce qu'à chaque fois que ça a été fait, que ça soit avec Areola et Buffon ou même Donnarumma et Keylor Navas, ça n'a pas fonctionné. Et moi, je trouve que le message n'est pas bon, surtout pour ce poste-là. Amener de la concurrence à ce poste-là, peut-être que ça a fonctionné quelques fois dans d'autres clubs, mais je trouve que c'est un peu trop dangereux d'amener cette concurrence pour un gardien de but. Et surtout, en plus, le concurrent, vous l'avez très bien dit, le concurrent que tu lui amènes,
Safonov,
Safonov, on ne sait pas trop, il sort d'où, les qualités qu'il a.
Bah, peut-être que c'est un monstre, hein.
Titulaire en équipe
peut-être
de Russie.
C'est un monstre, hein. On va leur faire confiance.
Je pense que ça aurait été un monstre ou un crack, on en aurait entendu parler, mais malheureusement, je pense qu'on est loin, d'accueillir un crack. Et il est surtout là le problème. Et si Luis Enrique, il est vraiment déçu de Donnarumma, chose que je pourrais comprendre, parce que moi, c'est un gardien que je critique depuis 3 ans, parce que dans le Money Time, que ça soit contre le Bayern, que ça soit contre le Real Madrid ou cette saison-là, malheureusement, il te coupe des qualifications, ou alors tu peux le montrer du doigt. Et je trouve que en termes de progression, ça reste assez limité.
Après cette année, il a pas été tout le temps dégueu hein, en Ligue des Champions. Il faut rappeler que à 0-0, il fait une parade incroyable sur Adeyemi, que contre le Barça, quand sur les 20 dernières minutes, quand Xavi réajuste, il y a notamment deux parades assez énormes. Je crois que c'est sur Ferran Torres, il me semble.
Tu pourrais même ajouter Milan et où il t'évite une
Milan, ça peut faire fesser. Ouais. Oui, il a un problème sur les coups de pied arrêtés qui est réel sur le but du Mel, c'est le but
Toute l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est une des équipes qui encaisse le plus de coups de pied arrêtés et c'est pas que de sa faute, c'est aussi l'organisation.
Après il y a des moments où il est fautif, le match contre Bayern en 8e, le but de Coman, il doit faire mieux, ce qu'il fait contre Benzema, c'est catastrophique, mais il faut être honnête aussi dans la démarche, et il y a aussi eu des moments où il t'a sauvé hein.
Bien sûr.
Après les gens te diront c'est son rôle aussi. Hein.
Oui. Bien sûr, oui. Voilà, c'est ça. On va pas féliciter un boulanger de faire du pain, tu vois.
Donc, ça dépend le pain.
Ouais, ça dépend. Ouais. Le pain, c'est très important, surtout à une certaine.
D'accord.
Heure.
Hein.
Ouais. Faut pas se tradition ouais. toujours. Hein, tradition. Ouais. Tradition.
Ça peut bien lancer ta journée. Ouais.
C'est important. Ça.
Ouais. On est tous.
J'ai envie de te dire, il faut féliciter les boulangers de faire du pain.
Ah bah oui,
vraiment.
On a compris la métaphore. T'inquiète pas.
On a compris. Vous êtes positif, c'est pour ça. Mais oui, mais en tout cas, le truc en fait, ce qui m'embête avec Donnarumma, c'est qu'on a l'impression que pendant une dizaine de match, et ben on se dit c'est bon, on a enfin le gardien qu'on attend en termes de niveau, et puis d'un seul coup ben tu vois il va te refaire douter, parce que tu vas quand même dire ouais, peut-être qu'il aurait pu sortir là, il aurait pu faire sortir cette sortie là sur des corners. Moi j'étais au Parc des Princes par exemple pour le match retour contre Dortmund, et le but c'était pas possible. Ouais. Ça fait 3 ans qu'il est là, 3 ans qu'il est titulaire, et 3 ans que t'as les mêmes débats sur Donnarumma. Et si jamais t'as envie de t'en débarrasser, mets-le clairement sur la liste des transferts. Et
exactement.
Ça, je suis d'accord. Tu vois, Tariq, finalement, t'es arrivé sur le chemin.
Non, c'est différent. Non, parce que vous êtes dans un entre-deux. Ouais.
Non, je suis pas dans un entre-deux. Je me dis que du côté du PSG, c'est légitime de penser qu'après 3 ans, on voit les mêmes qualités, mais aussi les mêmes défauts.
Tu donnes la confiance.
Tu peux aussi penser que le challenge sportif
va avoir un juste milieu.
Ça peut ne pas marcher, mais toujours est-il que du côté du PSG, encore plus sur un poste spécifique, ça ne t'interdit pas d'évoluer sur la question.
Et donc, surtout sur la gestion, tu avais un Marcin Bulka, il était au PSG, non, lui?
Il était au PSG.
Et tu l'as laissé à Nice, etc.
Tu aurais pu le faire émerger. T'avais aussi Navas,
oui,
ce qui était quand même compliqué. Ouais. Pour revenir sur ce que dit Tariq, t'as pas pour moi nécessairement besoin de remplacer par un crack, parce que faut insister sur cette nuance. Je pense que Gianluigi Donnarumma est un meilleur gardien que tous ses concurrents actuellement. Mais est-ce que c'est le meilleur gardien possible pour le PSG de Luis Enrique?
C'est la question.
Oui, mais si tu me ramènes un mec, on va pas refaire le débat. Si tu me ramènes un mec qui a les qualités de Donnarumma, avec ce jeu au pied qui peut lui faire du bien.
Par exemple, quand Arteta il ramène Raya à la place de Ramsdale.
Moi, je pense que Raya, à la base, c'est un moins bon gardien.
Oui, mais moi aussi, mais je le pense toujours.
Mais lui,
t'as dit, c'est parce que Raya, avec les pieds, encore, ça reste à prouver, apporter quelque chose. Donc, il faut quand même une idée. Et comme l'a dit Sofiane, si Donnarumma t'es pas satisfait, on serre la paluche, et à un moment donné, mon copain, on repart en Italie, on repart où tu veux. Mais nous, on va en prendre un autre gardien.
Le problème, c'est
qu'ils peuvent pas l'avoir, cet autre gardien. Parce qu'aujourd'hui, le marché, il est très, très compliqué et qu'ils auront pas la garantie.
Quand tu dis ne peuvent pas avoir ce gardien,
ils peuvent pas avoir un gardien bien meilleur que Donnarumma. Ils peuvent pas aujourd'hui avoir cette garantie-là. Parce que le marché.
Est-ce que t'es convaincu qu'il faut un gardien bien meilleur que Donnarumma?
Plus fiable. Est-ce qu'ils peuvent en avoir un aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont cette garantie-là?
C'est le travail de la direction, ça. C'est travail de la direction.
Ils ont d'autres travaux, je pourrais.
Non, mais ils peuvent pas faire de la magie sur ce poste.
Encore une fois, Sofiane, on est sur un poste qui est fondamental. J'ai envie de dire, tu peux gagner, tu peux perdre des matchs.
Mais toi, ta range, c'est de penser que tu peux trouver mieux aussi facilement. Moi, ma range, personnellement, c'est d'optimiser les qualités de Donnarumma en améliorant l'organisation générale, l'organisation défensive. Ça, c'est mon point de vue.
Bon, tu sais ce que tu gagnes, tu sais pas ce que tu perds.
2-7 à 1 pour Zverev, Eric Salio.
Oui, après presque 2 heures de jeu, l'Allemand vire en tête, 2 manches à 1, puisqu'il vient de remporter ce set 6-4. Il s'est fait peur. Alors que l'autre est pas bien.
Ouais.
Il s'est fait peur. Il a commis 2 doubles fautes dans ce jeu. 2 doubles fautes de fébrilité. Mais finalement, il s'en sort. Donc, Sacha Zverev, il mène 2 manches à 1 encore. 1 set, 1 manche. et il aura le droit de disputer sa première finale à Roland, sa deuxième en Grand Chelem après le fameux match contre Dominic Thiem à l'US Open 2020. C'était l'édition sans le moindre spectateur, c'était horrible.
Ah oui, il sort rude là, il sort de...
Ouais,
il court, effectivement, Eric.
Direction les WC, peut-être. Hein. Il va aller se vider un petit peu.
Bon, on va pas rentrer dans ce débat parce que c'est vraiment
C'est pas drôle, bizarre, c'est bizarre, un joueur de plus qui peut sortir à 2-7-1, mener 2-7-1. Apparemment, il y en a 15 sur le circuit.
Ouais.
Bon. Tu fais référence à qui?
Chacun se fera ça. Ta propre idée.
Je sais pas, faut demander à Daniel.
Ouais, faut demander à Daniel.
Préféré
de Daniel Gélo,
je crois.
Là, Daniel, vendredi, là,
il est. Djoko, il s'est quand même marié avec Dame Pipi. Hein, donc, à force d'y aller.
On l'embrasse, Daniel, d'ailleurs. Merci, Tariq, d'être venu. Merci, Eric. On revient. Merci à Tariq d'être venu. Et très bonne soirée à toi. À l'écoute de Génération After. On revient dans un instant avec Hervé Kouamo, journaliste camerounais, qui va tout nous dire sur ce qui se passe au Cameroun, la guerre entre la Fédé camerounaise de Samuel Eto'o et le ministre des Sports. Restez avec nous. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
François Pinet.
Il est 21h34, vous écoutez RMC Génération After en direct jusqu'à 22h avant de retrouver l'After en direct avec Thibaut Giangrande. On reparlera d'ailleurs du cas Donnarumma dont on vient de parler avec l'avis de Lionel Charbonnier, un gardien qui juge un autre gardien. C'est toujours intéressant, donc ne ratez pas ça. Évidemment, on parlera également des Bleus avec Thibaut à deux jours du match face au Canada. D'ailleurs, je vous fais un point sur les matchs en cours. Les matchs de préparation pour cet Euro, la Pologne mène 3-1 désormais face à l'Ukraine. L'Angleterre, c'est la mi-temps, hein. À la mi-temps, l'Islande mène face à l'Angleterre 1-0.
La grande Angleterre.
Il recommence. Et puis la Grèce qui mène 1-0 face à l'Allemagne.
La grande Allemagne.
Ça aussi, c'est surprenant.
À une semaine de son Euro.
Voilà.
Attention l'Allemagne, attention. Ouais. Ça va me coûter cher, mais... Ça peut faire un crash, je vous le dis, moi.
Ah oui, d'accord, c'est annoncé.
C'est cher, ça, je crois.
Alors, il y a également des matchs de qualification pour la Coupe du Monde, là, des matchs qui comptent vraiment en Afrique. Je vous donne les scores aussi à la 35e minute, 0-0 entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Le Maroc qui mène 1-0 face à la Zambie, but de Ziyech sur pénalty. Et puis l'Afrique du Sud qui mène face au Nigeria, 1-0. Voilà pour les.
Au Nigeria.
Au Nigeria, tu as raison de le préciser, c'est important.
L'Afrique du Sud, il avait montré de belles choses à la dernière CAN.
Exactement. La troisième de la CAN, moi je m'en souviens, c'était contre la République démocratique du Congo.
Oui. Avec un super gardien là, qui avait fait des exploits.
Et pas que, des forces offensives aussi.
Et sans Osimhen, sans Boniface qui est sur le banc.
Voilà, et je vous donne les autres résultats. L'Ouganda a battu le Botswana 1-0, Madagascar a battu les Comores 2-1, l'Angola a battu Eswatini 1-0. Les Autos a battu le Zimbabwe 2-0, 2-1 pour le Mozambique face à la Somalie, et puis un partout entre le Kenya et le Burundi pour les matchs qui se sont terminés.
Ce qui est fou avec l'Allemagne, c'est que je le disais pendant la pub, à chaque fois qu'ils nous jouent, ils nous tapent, mais vraiment bien. Et par contre, après, derrière, ça se passe plus mal.
Ils sont beaucoup plus motivés, peut-être.
Je sais pas ce qui se passe, mais ouais.
Il y a un truc. Demain, Cameroun-Cap-Vert. Ça aussi, c'est un match donc de la qualification pour la Coupe du Monde. Un match qui n'aurait pu ne pas avoir lieu. En tout cas, Hervé Kouamo est avec nous, journaliste camerounais. Bonsoir, Hervé.
Bonsoir.
On se connaît un petit peu. On peut te voir régulièrement sur France 24. Hervé, tu as participé notamment aux émissions spéciales Coupe d'Afrique des Nations. Et en tant que Camerounais, évidemment, tu suis le destin des Lions Indomptables. Depuis plus d'une semaine, il n'y a pas un jour sans qu'il n'y ait pas des rebondissements dans ce conflit qui oppose Samuel Eto'o, le président de la Fédé, au ministère des Sports. On va revenir avec toi sur les origines de cette guerre. Mais d'abord, dernière info en date, on en parle parce qu'il y a le premier match de Marc Brice, donc le sélectionneur belge, demain face au Cap-Vert à 15h. Il y avait eu des rumeurs, Hervé, d'annulation du match. Finalement, le match aura bien lieu. Mais on parle de conditions peut-être compliquées pour Marc Brice qui pourrait être seul sur le banc sans son staff. Il y a des histoires comme ça.
Oui, effectivement, la certitude aujourd'hui, c'est que le match aura bien lieu. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai que personne ne sait dans quelles conditions. Personne ne sait comment Marc Brice va jouer, s'il sera seul sur le terrain, parce que ce sont les conséquences des désaccords entre la fédération et le ministère, puisque comme vous le savez, comme tu le sais, le Cameroun a deux staffs, un staff nommé par le ministre des Sports et un staff nommé par la fédération camerounaise de football avec le même sélectionneur, Marc Brice.
D'accord. Donc ça pourrait être sans le staff désigné par le ministère.
Par le ministère.
Voilà, oui. Décision de Samuel Eto'o. Si jamais il se retrouve tout seul, c'est parce que Samuel Eto'o a dit au staff, non, vous n'allez pas sur le terrain, c'est ça, si j'ai bien compris.
Oui, c'est que la fédération n'aura pas validé leurs accréditations pour être sur le terrain.
D'accord. Bon, il n'est pas tout seul, Hervé. Vous entendez, il y a sans doute la famille derrière, Hervé.
Lui aussi, il a deux staffs.
Marc Brice, qui a été nommé le 2 avril. Bon, c'est pas facile pour lui. On se souvient tous de cette vidéo. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver où on voit Samuel Eto'o. Bon, alors, il s'en prend au ministre, un représentant du ministre des Sports. Il s'en prend également directement à Marc Brice, l'entraîneur belge, en lui disant c'est moi le chef ici et si tu es là c'est grâce à moi, donc si tu veux pas suivre ce que je te dis, en gros tu resteras pas. Est-ce que Hervé Coimo, tu peux nous rappeler l'origine de ce conflit, justement parce que ça ne date pas de la nomination de Marc Brice, hein, le conflit entre Samuel Eto'o et le ministère des Sports?
Non, ça date pas de, ça date pour moi, le premier élément, l'origine de cette brouille aujourd'hui, c'est à la suite de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu au Cameroun, donc en janvier 2022. Le ministre des Sports, suite à la troisième place du Cameroun, estime que le staff en place, donc dirigé par le Portugais Conceição, a réussi sa mission et qu'il n'y a aucune raison de les remplacer. Donc il fait une interview à la télévision camerounaise, la CRTV, la télévision nationale, en disant que pour lui, le sélectionneur doit rester en place. Samuel Eto'o le prend très mal, fait jouer ses réseaux pour faire annuler ce contrat et remplacer le sélectionneur par Rigobert Song. Donc là, sachant que ça fait 2 ans que les résultats n'étaient pas à la hauteur des ambitions camerounaises, après la Coupe d'Afrique des Nations ratée, le ministre actuel profite d'un discours du président de la République le 10 février. Le 10 février, c'est la veille de la fête de la jeunesse au Cameroun. Et qui est le 11 février, où il dit grosso modo que l'État va reprendre un peu la main. Donc le ministre des Sports choisit, là pour le coup, de faire nommer un sélectionneur. Mais ce qu'il fait pas habituellement, c'est qu'il nomme le sélectionneur, il nomme ses adjoints, il nomme même le responsable de la presse. Et dans tout le staff qu'il nomme, il met des gens qui sont en discussion, enfin qui sont brouillés pour la plupart avec Samuel Eto'o. Donc donc ça devient du coup une relation personnelle, hein, qui entre les deux, une brouille personnelle. Et donc Samuel Eto'o, dans un premier temps, ne réagit pas. Puis au mois de mai, choisit de confirmer le sélectionneur Marc Brice et de ne pas choisir le staff qu'il a choisi et de travailler avec son propre staff.
Ce qui est quand même fou, c'est que Samuel Eto'o voulait d'ailleurs proposer plusieurs noms, hein, plutôt que Marc Brice. Il était plutôt, d'ailleurs, il y a des noms qui sont sortis, Hervé Renard,
il était question de Cannavaro,
Fabio Cannavaro, exactement. On lui met un entraîneur, donc il n'a pas voulu, avec un staff qu'il ne veut pas, etc. etc. Et effectivement, maintenant, il est en lutte avec le ministère des Sports. Et c'est ça qui est compliqué, évidemment, au Cameroun, parce que normalement, c'est la Fédé qui doit choisir les entraîneurs, etc.
Oui, parce que Hervé, si tu es encore là, il faut bien préciser qu'en vertu d'une convention depuis 2015, le ministère camerounais a un droit de regard, si je ne dis pas de bêtises, sur ce qui se passe en sélection, et notamment la constitution du staff.
Et alors que la FIFA interdit l'ingérence.
Voilà.
En fait, disons que c'est pour ça que le Cameroun est un exemple particulier et difficile, et même dans lequel la FIFA, parce que ces conventions entre les ministères et les fédérations, je veux dire, encouragées d'une certaine façon par la FIFA, c'est pour ça. Le Cameroun, une particularité, c'est que l'équipe nationale a été créée par décret en 1972. Et donc, officiellement, l'équipe nationale est gérée par l'État, donc par le ministère des Sports. Mais ça a été créé à une période où la fédération était un démembrement du ministère des Sports. Sauf que depuis la loi des années 80, depuis 1990, et donc depuis que la FIFA souhaite que les dirigeants soient élus, ça pose un problème et c'est une tension qu'il y a naturellement entre les deux institutions depuis le début des années 2000. Et donc là aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Donc effectivement, à chaque nouveau code du sport, on essaie d'adapter un tout petit peu Et puis les deux ont signé une convention. Depuis 2001, il y a toujours une convention entre la fédération et le ministère. Le problème là, pour le coup, c'est que c'est devenu une vraie bataille entre deux mâles alpha, on dira, puisque Samuel, enfin la fédération,
pas intelligent si c'était mâle alpha.
la fédération a envoyé une lettre à la FIFA, qui l'a renvoyée à sa propre convention, parce qu'effectivement la FIFA dit. Nous, on souhaite que ce soit la fédération qui le fait, donc renégociez votre convention. Donc, mais plutôt que d'attendre le prochain tour, ils y sont allés tout de suite. Et c'est ça tout le problème aujourd'hui, c'est que on se retrouve dans une situation où effectivement il y a deux staffs, il y a deux programmes, parce qu'aujourd'hui la fédération a envoyé un programme, le ministère a envoyé un autre, et jusque début d'après-midi l'équipe nationale a plutôt respecté le programme du ministère.
Ah d'accord, ils ont choisi leur temps. On va en parler dans un instant, Sofiane, bien sûr, avec vous. On va vous faire réagir à tout ça. On va te retrouver Hervé Kouamo, journaliste camerounais qui suit le destin de cette sélection camerounaise qui évidemment est pris en étau. Et sans jeu de mots.
C'est même pas fait exprès.
T'aurais dû continuer.
Il est beau quand même.
Ouais, il est magnifique.
J'aurais rien
dit. Il m'a ému.
De là, du coup, c'est un peu lourdingue. Le tennis Roland Garros, Eric Salio, avec Casper Ruud qui est de retour sur le terrain. Mais est-ce qu'il va mieux, notre ami norvégien, face à Zverev?
C'est pas mal là.
Ah, Eric Salio, en revanche, peut-être qu'il est parti, oui, lui aussi.
Ah, lui aussi, les petits fours.
Touché. Ouais. Touché aussi.
Et il vient de faire un coup long de ligne, là, incroyable, Ruud, pour revenir à 2-1.
Tu commences en 4ème set.
T'as dit Ruud.
Ouais, Ruud. Ouais.
On retrouve Eric Ruud, Salio dans un instant, avec Casper Ruud, Alexander Zverev.
Je suis là, les enfants.
Ah, tu es là.
Ruud, il est bon ou pas, Ruud?
Ouais, Ruud. Franchement, j'ai de la peine pour lui, parce que c'est beaucoup de sacrifices. Et là, le jour J où ton corps te lâche, c'est terrible, quoi. Parce que je vois pas comment il peut s'en sortir. Et on le voit sur le champ de côté, là, il est accablé.
Ah ouais, il a abattu, là.
Ah, le pauvre. Bah ouais, c'est une chance énorme de disputer une nouvelle finale à Roland qui s'envole parce qu'il est mené 2-1. Il est breaké dans le quatrième. Il y a 2-1 Zverev. Donc, ça paraît mission impossible. On voit qu'il peut pas aller sur les balles. Et il fait des impasses. Ouais. C'est dur. Moi, j'ai de la peine pour lui.
Nous aussi, tous ensemble. On revient dans un instant. Génération After, la suite de cette demi-finale. Et puis, bien sûr, on continue de parler du foot africain et notamment camerounais avec Hervé Kouamo, notre journaliste camerounais qui va venir nous raconter ce qui se passe entre Eto'o et le ministère des Sports. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
François Pinet.
Il est 21h50. Dans un instant, ça sera Thibaut Giangrand pour l'After Foot avec Walid Acherchour qui fait des heures sup, qui va rester.
Prochaine, ce soir, je fais 20h minutes.
Voilà, mais c'est beau. Avec Lionel Charbonnier qui nous rejoindra à 22h.
C'est un grand plaisir.
Sofiane Zouaoui et Elton Mokolo sont toujours là, bien sûr. Il y a Eric Salio également. On est très nombreux ce soir qui suit Ruud face à Zverev avec un nouveau jeu remporté par l'Allemand qui se rapproche.
C'est Ruud pour Ruud.
Oh, magnifique.
Ouais, là, il se rapproche vraiment de la finale, là, Sacha Zverev, puisqu'il mène 2-1, 2-6, 6-2, 6-4. 3 jeux 1 dans le quatrième set. C'est compliqué pour Casper Ruud. Au moins, tu vois, il abandonnera pas. C'est pas le genre de la maison, mais je pense qu'il a qu'une envie, c'est d'aller dans son lit, quoi. Là, il peut pas défendre ses chances normalement. Et c'est dommage parce que ça l'a cueilli à la fin du premier set qu'il a vraiment survolé. Donc c'est d'autant plus rageant pour
c'est horrible, j'imagine, t'es en demi-finale de Roland Garros.
C'est la vie de sportif, t'es pas à l'abri d'un virus ou enfin on en saura plus
jamais sur les studios.
Jamais.
Mais en studio.
Prends mes précautions.
Ah oui, mais faut parfois des précautions, tu as beau en prendre c'est l'occasion de se dire que le record incroyable d'Alizé Cornet qui a disputé 69 grands chelems consécutifs. C'est dingue.
Bah oui.
Ça veut dire qu'elle était tout le temps là, jamais malade, rien, pas un pépin, rien. C'est fou son record.
Ah, j'y pensais aussi.
Eric, on te retrouve évidemment pour la suite de cette rencontre. Bien parti pour Zverev, on l'a compris. On parlait de Samuel Eto'o avec Hervé Kouamo, qui est toujours là, journaliste camerounais, je le rappelle, qui nous explique un peu tout ce qui se passe, puisqu'on est à la veille d'un match important pour le Cameroun. Ce Cameroun-Cap-Vert, match de qualification à la Coupe du Monde, c'est pour ça qu'on en parle. C'est le premier match avec Marc Brice en tant qu'entraîneur. Et on va voir comment ça va se passer, parce qu'on va suivre ça très très près, bien sûr. En ce moment, d'ailleurs, il y a 1-0 pour la Côte d'Ivoire à la mi-temps face au Gabon. Ils ont ouvert le score, les Ivoiriens, grâce à Seko Fofana, l'ancien Lensois, qui a marqué pour l'instant le but pour la Côte d'Ivoire. Hervé, sur cette histoire, donc tu nous as parlé de la genèse un petit peu, on a l'impression que Samuel Eto'o, il s'attaque finalement à quelque chose, mais il n'arrivera jamais à renverser la table, j'ai envie de dire. C'est quelque chose de trop gros, tout Samuel Eto'o qu'il est, non?
Ben, disons que c'est vrai que, enfin, tout Samuel Eto'o qu'il est, il a en face de lui des institutions qui sont fortes. Il faut dire quand même que c'est déjà un exploit pour quelqu'un de prendre la tête de la fédération camerounaise de football, que tout le monde pensait imprenable. Il a fait cet exploit. Et puis pendant 2 ans, il a pu travailler. Le problème, c'est que les résultats n'ont pas suivi et que, effectivement, le politique essaie de se remettre en place. Donc, c'est aussi une situation où il y a une guerre et un conflit entre les potentiels successeurs à la présidence du président Paul Biya, qui, voilà, il a 91 ans, donc on sait que c'est, enfin, on est plus proche de la fin que du début. Quoi donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se jouent, mais tout Samuel Eto'o qu'il est, c'est difficile. Le Cameroun est le Cameroun, hein, il y a toutes ces expressions, ouais. Le continent. En fait, au Cameroun, on se bat pour tout avoir.
Il y a comment rien c'est perçu là-bas, donné, justement? Est-ce que les Camerounais soutiennent plutôt Samuel Eto'o dans ce combat ou pas?
Disons que c'est à l'image du personnage, c'est-à-dire Samuel est clivant. Donc effectivement, il y a deux grandes tendances. Et je sais pas si c'est amusant, parce que en réalité, comme je dis, les adversaires, c'est a priori le Cap Vert et l'Angola. Mais nous avons un match là en ce moment entre le FC Ibou et les Églisiens. Le FC Ibou, c'est ceux qui ne supportent pas Samuel Eto'o, et les Églisiens, c'est ceux qui supportent Samuel Eto'o. Donc grosso modo, on va dire que l'opinion est fragmentée entre deux. Certains qui soutiennent mordicus que Samuel Eto'o doit aller au bout parce que c'est lui qui a la légitimité juridique, et d'autres qui estiment que c'est l'État, qu'il faut faire respecter l'État. Donc on est dans cette situation. En tout cas, ça fait beaucoup parler, c'est très présent dans l'actualité. Toutes les revues de presse, tous les journaux, tous les débats télévisés au Cameroun commencent et se terminent par cette histoire.
Bon, déjà, dire que c'est pas une bonne image du tout, parce qu'on approche du comique, là, quand t'es de l'extérieur et que tu vois ça.
On est dans le comique.
Un épisode de plus. Moi, j'ai envie d'avoir mon avis extérieur par rapport à ces situations. Je comprends les histoires de conventions, etc. Mais on peut aussi dire que les conventions n'ont aucun sens. Pour moi, c'est pas au ministère des Sports de nommer le sélectionneur.
C'est anachronique.
Et son staff. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je veux bien que Samuel Eto'o ait aussi, parce que lui, il n'est pas obligé aussi en termes de communication d'aller pointer Brice comme ça devant les caméras. Je veux dire, c'est catastrophique aussi, ouais. Sa gestion en tant que président de la fédération.
En disant, j'ai été un grand joueur.
Ah bon, ça va. On sait ses limites aussi par rapport à ça. Bien
Appelez-moi
évidemment.
Le conseil d'administration.
Mais au-delà de ça, maintenant qu'on a dit ça et qu'on connaît le caractère du bonhomme, moi, je suis plutôt dans son sens, même si la situation est globalement complexe. Mais c'est au président de la fédération de nommer son sélectionneur, de nommer son staff. C'est lui qui est le plus proche du terrain. Je veux dire, l'ingérence, déjà, légalement, ce n'est pas accepté par la FIFA, même s'il y a une convention au Cameroun qui est spéciale, je veux bien l'entendre, mais légalement, il y a pas, c'est pas accepté. Et même en termes de cohérence, vraiment, j'ai envie de leur dire, prenez un petit peu de distance par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place du côté du ministère des Sports. Et dites-moi sincèrement si vous trouvez ça logique ce que vous êtes en train de
faire. Après, moi, je suis d'accord avec toi, Sofiane, mais le problème, c'est que l'ingérence.
Mais là,
l'ingérence, faut pas qu'elle aille dans tous les sens, parce que Samuel Eto'o qui a nommé notamment son sélectionneur Rigaud Berson, on peut pas dire que ce soit un super choix.
Et surtout,
pourquoi il a ramené Rigaud Berson?
C'est un choix
et là, qui est légitime. La deuxième des choses, c'est que sur Adan Arkane, c'est quand même un mec qui faisait les entraînements et qui faisait les compositions d'équipe. Sur l'ingérence, quand il demandait Onana, pas Onana, les histoires de l'entraînement avant le match de la Gambie, où nous on a eu des échos, des témoignages comme quoi avant le match, c'est lui qui faisait les oppositions. Donc à un moment donné, l'ingérence,
c'est pas parce qu'il lui le fait.
Mais il faut qu'il soit cohérent.
Attention, si je peux me permettre. En fait, la difficulté pour moi, enfin tout, comme je sais plus qui l'a dit, mais tout
Sofiane,
est
Sofiane,
tout est ridicule dans cette histoire. Effectivement, dans l'absolu, c'est plus simple et c'est plus légitime que ce soit la fédération qui nomme le sélectionneur. Maintenant, habituellement, c'est au Cameroun, ça a toujours été le ministre. Hein, je veux dire, souvent ça vient de la présidence. Paul Le Guen, c'était venu de la présidence. Oui, pas qu'au Cameroun. Maintenant, dans cette affaire en particulier. Tout le monde l'a mal géré, parce que si tu veux, Marc Brice a été nommé le 2 avril, et cette scène se passe On est le 27 mai, je crois, ou le 28 mai. Ça signifie quasiment 2 mois après sa nomination. En fait, la difficulté, c'est que, et je le pense sincèrement, c'est que les deux s'arboutent sur le droit, sur la légitimité, la légalité, la légitimité. En réalité, personne ne pense à travailler, parce que Marc Brice, il a été nommé le 2 avril, il a communiqué de façon très importante sur le fait qu'il rencontrait les joueurs, qu'il voyait les joueurs, ceux avec lesquels il était en visioconférence, comme au Cameroun en ce moment, tout sort, tous les documents, il n'y a plus de documents confidentiels, tout sort. Donc en fait, tout le monde l'a vu travailler. Et de façon générale, pour moi, c'est légitime c'est pas légitime d'attendre autant de temps pour le faire. De la même manière, parce que Samuel Eto'o lui-même il a été stratégique de se dire, puisque je peux pas changer, je laisse Marc Brice, mais je change les adjoints. Mais sans jamais avoir appelé Marc Brice. Mmh. Effectivement, je pense qu'ils auraient pu se parler avant, sans les caméras, trouver une solution. Et même là, je veux dire qu'en fait, le staff, on aurait pu tout simplement demander à Marc Brice de choisir son staff.
Oui, oui.
Je veux dire, il y a tellement de solutions différentes. Mais dans la réalité, c'est vrai qu'il y a une situation qui est complexe, mais elle est d'autant plus complexe que les hommes qui l'animent ne veulent rien laisser passer.
Exactement.
Et veulent s'arbouter sur leur prérogative.
Eh ben, merci beaucoup, Hervé. Merci Hervé Cuamo d'être passé dans l'after. Et à très bientôt. Cameroun, Cap-Vert, c'est demain 15h, bien sûr. On suivra ça de très près.
Ça aura lieu,
ça c'est une
et
info.
Attention, contre un quart de finaliste de la dernière
année. Ah oui, c'est pas gagné. Effectivement,
non, c'est pas gagné, ça c'est clair.
Merci.
Et le Cap-Vert ne réussit pas habituellement Cameroun.
Merci beaucoup, Sofiane.
Merci à toi, François.
Très bonne soirée à toi. Merci, Elton.
Merci à toi, François.
Walid, je te dis merci, mais tu restes.
Merci, François,
avec
je reste.
C'était
un plaisir de découvrir ces nouveaux intervenants et on se dit à bientôt.
Je trouve que ça a bien matché entre vous.
Pour une première, moi je t'aimais pas beaucoup.
Ça a bien fonctionné.
On se dit à bientôt. Parce qu'on n'est pas sûr de se retrouver rapidement sur les plateaux du digital. Donc,
on vous réunira tous.
Exactement.
Ne vous inquiétez pas, on est là pour ça sur RMC.
Merci, c'était un plaisir en tout cas.
On remercie Eric Salio, la suite de Zverev Rude. C'est avec Thibaut Jean-Grand dans un instant dans l'After. Restez avec nous sur
RMC. RMC, l'After Foot.